Oui, nous sommes en juillet 42 avec ma mère. Voilà 2 ans et demi que nous habitons, enfin que nous campons à Toulouse en pleine guerre. La Shoah en juin-juillet 42 bat son plein, si j'ose dire. Les persécutions actives s'étendent de la zone occupée à la zone de Vichy, à la zone dite libre, avec bien sûr, comme vous le savez, la coopération enthousiaste des autorités locales, administratives autant que policières et parfois universitaires. J'étais à ce moment-là étudiant en médecine à la fac de médecine de Toulouse et en même temps et surtout depuis près de 2 ans, membre de l'AJ. AJ, ce sont les initiales de ce qui sera 2 ans plus tard armée juive, mais qui à ce moment-là désignait un mouvement d'autodéfense et d'organisation contre les déportations en cours, aussi en zone libre déjà, Action juive. Et nos chefs, moi j'avais en 41, 42, j'avais 21 ans, j'avais été envoyé, avec tous les risques que cela implique, d'utiliser des trains dans la zone libre à l'époque, dans la zone de Vichy. J'avais été envoyé d'abord à Marseille et à Nice, et de là, après un crochet par Toulouse, vers Lyon et Diolfi, en passant par Avignon. Je devais m'arrêter dans tous ces endroits parce que nous y avions des relais. D'autres, j'étais agent de liaison et je devais porter des messages, ramener des messages oraux, évidemment, surtout rien d'écrit, dans ces voyages en train qui étaient constamment, fouillés et par la police d'État de Vichy et en civil à côté d'eux par des gens de la Gestapo et un peu plus tard par la milice elle-même, la milice française de Darnan, de sinistre mémoire. Donc il fallait être très prudent. Bon, je passe sur tous ces voyages, ce grand voyage, et je me suis arrêté à Lyon, entre autres. Et là, j'avais un contact d'un côté, du côté de l'AJ, évidemment, l'Action juive. Je voudrais mentionner là 2 noms qui me sont restés à travers tant d'années. Celui d'un peintre juif d'origine, je crois, russe, qui s'appelait Shraga Zarfin. Zarfin, Z-A-R-F-I-N, qui était de l'école de peinture, vous savez, de la peinture juive de Paris, de l'époque. Et j'ai été hébergé une nuit chez lui, clandestinement, et là j'ai également rencontré un écrivain juif d'origine, lui, alsacienne, ou lorraine, mais qui avait fait sa carrière à Paris, qui s'appelait Henri Hertz. Ceux qui connaissent l'histoire de la littérature juive en France au XXe siècle se souviendront peut-être de son nom. C'était un homme très âgé, très gentil, et je les ai vus, je leur ai transmis des messages et reçu des messages. Mais la seconde nuit, puisque j'ai passé 2 nuits à Lyon, c'était un Lyon du temps de guerre. Il faut vous imaginer ça. Pas encore occupé par les Allemands, mais c'est tout comme avec la collaboration du régime de Vichy et les hommes de la Gestapo et des SS en civil qui convoyaient à tous les coins de rue, comme à Toulouse d'ailleurs également. La deuxième nuit, j'ai été hébergé dans une famille de soyeux lyonnais, une famille de la haute société lyonnaise, les taverniers, qui ont peut-être encore leurs descendants, je ne sais pas, une magnifique villa, une espèce de un domaine, un manoir, qui donnait d'un côté sur, je crois, sur la Saône, et de l'autre côté un vaste jardin avec un potager derrière et une poterne par laquelle on pouvait sortir derrière. Et c'est donc s'esquiver par derrière en évitant la rue. Bon, je suis accueilli chez ces gens. Ce n'était pas Bertrand Tavernier, dont le nom vous est certainement familier. Bertrand, c'est le fils, le grand cinéaste. Il s'agit de son père, René Tavernier, qui était à l'époque lui-même un jeune homme de Bon, moi j'avais 20-21 ans, il devait en avoir 26. Et lui était très actif dans la résistance tout court, la résistance française qui s'organisait à Lyon. Il était également le fondateur et le directeur d'une revue qui a eu beaucoup d'influence à l'époque, d'une revue littéraire, philosophique, qui s'appelait Confluence, au pluriel. Confluence, et tout ça se mijotait dans cette belle villa où j'ai passé une nuit. Et il y avait là également, parmi les invités, un ami de René Tavernier, qui était lui-même poète, et je crois faisait des études de lettres, ou venait de finir, et c'était surtout l'héritier de la dynastie des Soyeux, dont j'ai parlé tantôt. Très hospitalier, très gentil. Et le lendemain, avant de quitter, par une des fenêtres qui donnait par derrière sur le grand jardin, le parc en réalité de cette propriété magnifique, avec son jardin potager au fond et cette porte de jardin, ce qu'on appelle une poterne, Tavernier m'appelle, ainsi que l'autre invité qui était quelqu'un dont le nom vous dira peut-être encore quelque chose aujourd'hui, puisqu'il a fait une carrière très brillante de journaliste de cinéma, d'où le rapport avec Tavernier après la guerre. C'était François Chalet. François, qui était un de mes amis de jeunesse de Strasbourg, parce qu'il était autre sous le nom de Boer, qui est le nom de son père, que le fils du bâtonnier des avocats de Strasbourg de l'époque. C'était encore là, c'était une famille de la haute société protestante de Strasbourg, la HSP. Et ce François Chalet, comme il a signé, Boer, était là également, planqué jusqu'à un certain point chez les Taverniers. Alors, Tavernier m'appelle, me dit: Claude, venez, je vais vous montrer quelque chose qui vous intéressera. Et je regarde vers la fenêtre et je vois une silhouette qui, à pas très rapide, passe à travers le jardin énorme, le grand jardin derrière, et qui se glisse, qui ouvre la porte du jardin potager, la poterne, et disparaît dans la nature. Je ne sais pas où exactement, sans doute dans la campagne, derrière le jardin, derrière les murs du jardin des Taverniers. Alors, René Tavernier se tourne vers moi en riant et me dit: vous avez reconnu qui c'est? Alors je lui ai dit, il croyait que je ne savais pas, il voulait me faire une grande surprise. Je lui ai dit: bien sûr que j'ai reconnu. C'est Aragon, Louis Aragon, le poète, qui était également planqué quelques jours chez les Taverniers, et qui, cherché par la police de Vichy et ses acolytes, ou plutôt ses chefs nazis, avait lancé un ordre d'arrêt contre lui après la publication toute récente du célèbre recueil de la résistance poétique, Le Crève-Cœur de Louis Aragon. C'était à cause de ça qu'on le cherchait. Et je l'ai vu tout à coup là apparaître, marcher d'un pas très vif et disparaître derrière le mur des Taverniers. C'est un de mes meilleurs souvenirs, évidemment, du Lyon de l'époque. C'est vous donner une idée de l'atmosphère qui y régnait. Quelques mois plus tard, les Allemands ont occupé tout le Midi, toute la zone de Vichy, y compris Lyon. Et à partir de ce moment-là, les Taverniers, je crois, se sont éclipsés dans la nature, eux aussi, comme Aragon avant eux. Pourquoi est-ce que j'avais reconnu Aragon ? Moi, j'étais un petit jeune homme, hein, j'avais 21 ans, j'étais un étudiant en médecine, c'est tout, qui commençait à écrire de la poésie, La lutte avec l'ange, justement, dont a parlé Anne Munich. Et René Tavernier dirigeait la revue Confluence, et j'avais envoyé des textes, ce qui était défendu pour les Juifs. Les Juifs n'avaient aucun droit de publication sous le régime de Vichy. C'était une infraction au statut des Juifs, mais j'avais fait tout de même. Et puis Tavernier voulait publier quelques-uns de ses poèmes, de la lutte avec l'ange. Et c'est pour ça qu'il m'avait demandé de venir le voir, et aussi pour qu'on se connaisse, à travers François Boer, le journaliste, François Chalet, qui était aussi de ses copains, de son âge, là, plus âgé que moi. Et j'avais vu, nous sommes en juillet, mais avant d'aller à Lyon, et de là redescendre sur Diolfi et sur Montelimina, je m'étais arrêté à, à Villeneuve-les-Avignon, c'est-à-dire la petite ville qui couronne la colline au-dessus d'Avignon, de l'autre côté du Rhône. Vous connaissez cela puisque vous habitez la région. Et dans Villeneuve-les-Avignon se cachait plus ou moins, pas tellement, Pierre Segers, l'éditeur, et sa femme, et des gens qu'il planquait dans la cave là-bas, comme Loïs Masson. Toute l'histoire de cette époque. Et moi, j'ai aussi passé par là parce que j'avais des messages à porter et à ramener concernant poésie, la revue de Segers qui changeait tous les ans, qui s'appelait à ce moment-là Poésie 42, où j'ai moi-même publié mes premiers poèmes, mes tout premiers poèmes. On les trouve dans le numéro de février de 42, Poésie 42. Et où, en redescendant de chez les Segers, qui étaient en haut, dans cette espèce de forteresse bizarre qui couronne Villeneuve-les-Avignon, où vous avez loué un appartement, en descendant en vélo, j'avais un vélo, je me suis arrêté presque en face du pont d'Avignon, parce que là, dans une toute petite maison, habitaient, devinez qui, eh bien Louis Aragon et sa femme, la fameuse Elsa, l'Elsa des poèmes. Et Pierre-Emmanuel, qui était venu également de Diolfi, que je connaissais déjà, le poète. Et puis, il nous a invités à déjeuner chez eux, les Aragons. Et puis, c'était une grande fête, puisqu'on avait des faillots. Vous savez, on crevait de faim sous le régime de Vichy, surtout les réfugiés, comme nous, à Toulouse. Et Madame Aragon, c'est-à-dire Elsa, Triolet, comme on l'appelle dans la littérature, avait préparé un énorme plat de faillots, de haricots bruns. Je n'en avais pas mangé depuis plus d'un an. Et c'était un grand régal. Et en face de moi, il y avait d'un côté Louis Aragon et de l'autre côté Pierre-Emmanuel, Elsa et moi. Et là, j'étais vraiment à côté de lui. Je me suis bien amusé cet après-midi. Et c'est pour ça que quelques semaines plus tard, quand j'ai fait le voyage de Lyon, je l'ai tout de suite reconnu. Mais évidemment, lui ne savait pas que j'étais là. Tout ça se passait en douce. Il fallait surtout diviser le danger. Il ne fallait pas parler de ce qu'on a vu, de ce qu'on n'a pas vu, tout ça. Ben, je vous raconte ces histoires parce que de Lyon, ce sont mes seuls vrais souvenirs. Les autres sont beaucoup plus récents. Lorsque Patrick Beurard, qui a longtemps habité ici, qui travaillait dans la bibliothèque de la Part-Dieu, m'avait invité il y a peut-être 10 ans, 12 ans, à faire une lecture de poésie dans la bibliothèque de la Part-Dieu. Et puis il y avait là également Charles Juliet, qui n'était pas encore connu, et qui allait devenir très célèbre par ses journaux, par la publication de ses œuvres. Voilà mes souvenirs lyonnais. La troisième visite, c'est ce soir.
Et est-ce que vous vous souvenez de la conversation, cette table avec Louis Aragon, Elsa Triolet et Pierre Emmanuel?
Ah bah oui, bien sûr. Bah oui, moi je ne disais rien, j'étais bouche bée. Un petit jeune qui mis tout à coup en face d'un Louis Aragon. Pierre Emmanuel, je connaissais déjà un peu.
Mais il était moins âgé quand même.
Pierre-Emmanuel avait juste 4 ans de plus que moi. Il avait 24-25 ans. Moi, j'en avais 21 en 42.
Il devait avoir la cinquantaine.
Et il était illustre. Aragon était un grand personnage, littéraire, mondialement connu, traduit, et politiquement très actif du côté du Parti communiste. Il était doublement recherché, n'est-ce pas ? À la fois pour ses poèmes et ses proses. De résistants contre les nazis et contre le Vichy, contre le régime de Vichy. Tout ça en plein territoire européen occupé, Vichy soit. Et on trouve par exemple, je crois bien que c'est dans le Crève-Cœur, justement, pour lequel on le cherchait, un vers comme celui-ci qui m'est resté à la tête, où Aragon écrit « J'empêche en respirant certaines gens de vivre. » Ces certaines gens, c'était les collabos, naturellement. Et bien, ils ne prenaient pas ça du bon côté. Et Aragon était un homme célèbre, comme Gide, enfin, pas tout à fait, mais presque. C'était un des grands hommes de cette époque. Et bien sûr, j'ai écouté surtout ce que se disaient Aragon et Pierre-Emmanuel, qui lui-même, à l'époque, bien que plus jeune, était à côté d'Aragon, le grand poète de la résistance. De la résistance tout court. Avec un grand air. Bien sûr, il parlait des nazis, il parlait de Vichy, il parlait de la nécessité de diffuser clandestinement des tracts, et comment faire ça sans se faire choper. On parlait aussi de la situation, naturellement, de la persécution des Juifs dans la zone dite libre qui allait devenir une catastrophe. On a parlé de l'archevêque de Toulouse, Monseigneur Saliège, et de son héroïsme, et surtout des projets, n'est-ce pas ? J'écoutais ça, étonné, mais je connaissais tout ça, puisque nous, de notre côté, l'AJ, seulement, nous étions spécialisés. Nous, il nous suffisait d'essayer de sauver quelques jeunes et moins jeunes, menacés d'abord des camps, par Vichy, Gurs, Recebedou Noé, Argelès, et j'en passe. Ça, c'était dans, soi-disant, dans la zone libre. Et notre problème à nous, dans l'AJ, à Toulouse, à Nice et à Marseille, avec Racine et d'autres, c'était de planquer des gens dont on avait, par des informations, su qu'ils étaient sur la liste noire et qu'ils allaient être, au milieu de la nuit, tel jour, arrêtés par les flics du Vichy. Alors ça, c'était nos problèmes. D'ailleurs, moi-même, j'étais justement envoyé en mission d'exploration dans toutes ces villes pour avoir des noms et pour essayer d'organiser, pas moi, j'étais trop jeune pour ça, mais nos chefs, comme par exemple Knut, oui, que vous avez mentionné, et bien d'autres, Polonski, Ankelevitch, enfin les gens qui vraiment, des adultes qui étaient nos chefs. Et moi je servais de courroie de transmission, mais j'écoutais de toutes mes oreilles ce qui se racontait entre Aragon, Elsa, qui avait toujours la gueule ouverte. Il ne faut pas croire qu'Elsa était timide. Hein. On l'entendait beaucoup. Mais je lui parlais de tout ça à cause des Fayot. Et Pierre-Emmanuel, qui était le jeune grand écrivain, poète essentiellement, qui a publié chez Segers, justement à l'époque, clandestinement, Segers à Villeneuve-d'Avignon, des poèmes, des recueils de poèmes qui étaient de vrais brûlots, combat avec tes défenseurs et d'autres, c'est extrait de la Marseillaise, c'était le titre d'un de ces livres de poèmes anti-allemands, anti-Vichy. Et c'était surtout de ça qu'il parlait. Il ne parlait pas de littérature, hein, entre eux. Il parlait de ça. Parce qu'il se voyait rarement, et puis il fallait faire vite, et chacun rentrait dans sa villégiature. Pierre-Emmanuel à Diolfi, et Aragon dans sa petite maison. Et ensuite, quelques jours plus tard, j'ai vu Aragon se tailler à travers le potager des taverniers à Lyon pour éviter l'arrestation décidée en haut lieu par Vichy. Enfin, par la Gestapo, tout simplement. Voilà quelques aperçus mineurs de ce qu'était la vie d'un jeune homme, d'un jeune juif alsacien, poète, enfin, débutant, jeune poète, entre Lyon, Diolfi, Marseille, Nice, Toulouse, en 40, avant que les Allemands n'occupent tout, jusqu'aux Pyrénées. J'ai réussi à me glisser hors de la zone de Vichy à quelques jours, juste quelques jours avant l'occupation totale du territoire. C'était un miracle. Enfin, un miracle. Il fallait pas mal de volonté et d'esprit de risque pour le faire. Bon, c'est un autre roman. Vous voyez, dans ma vie, il y a beaucoup de romans. C'est pour ça que je suis poète. Je n'écris pas les romans. J'écris des Judans dans lesquels c'est le poème qui tient la place principale. Le reste, ce sont des récits, comme celui que je viens de vous faire. Ensemble, ça fait cette polarité, ce balancier, récit, poème, poème, récit, méditation, rire, pleurer, bondir, conquérir un avenir. La récompense, comme j'écrivais déjà dans ce poème « La lutte avec l'ange » à Toulouse, la récompense est pour celui qui sait dompter le temps. C'est ce que j'ai essayé de faire toute ma vie.
Alors justement, maintenant, parlons poésie après l'anecdote historique. J'aurais voulu que vous essayiez de nous dire comment vous avez peu à peu pris conscience de la valeur poétique du judaïsme tel que vous l'êtes approprié. Et on pourrait peut-être commencer par dire justement que les premiers poèmes que vous avez publiés ont été publiés sous le nom de Claude Vigée, qui était votre invention biblique. Et ça, je n'en ai pas parlé dans mon...
Ce sont des fragments de la lutte avec l'ange.
Oui, mais le nom Vigée, peut-être pourriez-vous en parler.
Parce que je ne pouvais... Ma famille paternelle, ce sont des Strauss. Je ne pouvais pas, sous ce nom-là, me balader dans les trains, constamment fouillé par la flicaille de Vichy et la Gestapo, avec ce nom-là, et travailler pour l'AJ. Il fallait absolument un autre nom. Or, nous sommes là, nous sommes dans... août-septembre 40, juste après la débâcle, et j'ai fait la connaissance de ce qui allait devenir ou mes copains ou mes chefs à ce moment-là, donc en octobre, au moment de l'apparition de la publication du statut, du premier statut d'élu. Il y en a eu deux, il y en a eu un autre en juin 41. Encore pire, mais je parle du premier de 40. D'ailleurs, Anne-Monique vous a dit en quelques mots comment tout ça s'est fait. Quand j'ai vu ce Paris soir dont vous avez vous-même de vos propres yeux vu un fragment sur l'écran, tantôt dans le film, quand j'ai vu de mes yeux l'original, que j'ai d'ailleurs encore dans mes papiers, du Paris soir du 13 octobre 40, flotté au vent dans un kiosque de la place du Puy à Toulouse, c'est là que j'ai... Le lendemain, j'ai essayé de trouver ce qui était dans ma situation. Et je suis devenu agent de liaison pour eux, parce que d'abord, je n'avais pas d'accent, ou très peu, l'accent alsacien, mais pas celui des Juifs de Pologne ou d'Amsterdam, de Russie, comme la plupart d'entre eux, réfugiés, fuyant Hitler. Il y avait la moitié de l'Europe était dans le midi de la France à ce moment-là, fugitif. Alors, il fallait que j'ai un autre, que je me trouve à moi, mon nom, et aussi pour publier. Parce que, mauvaise tête comme j'étais, le gouvernement de Vichy, dans son premier statut déjà, avait décrété que aucun juif sur le territoire français n'avait le droit de publier quoi que ce soit. Quoi que ce soit, y compris la poésie, c'est encore le plus drôle, hein, mais c'est pas pour rien. Il est vrai que, pas pour rien, il est vrai que, du point de vue poésie, justement, Aragon et Pierre-Emmanuel, justement comme poète, leur faisaient la vie dure, ils ne se trompaient pas. Mais bon, j'ai décidé, moi, de publier mes tout premiers poèmes, hein, ceux écrits à 10 ans, du point de vue poésie, justement, Aragon et Pierre-Emmanuel, justement comme poète, leur faisaient la vie dure, ils ne se trompaient pas. Mais bon, j'ai décidé, moi, de publier mes tout premiers poèmes, hein, ceux écrits à 10 ans, pas pour rien. Il est vrai que, du point de vue poésie, justement, Aragon et Pierre-Emmanuel, justement comme poète, leur faisaient la vie dure, ils ne se trompaient pas. Mais bon, j'ai décidé, moi, de publier mes tout premiers poèmes, hein, ceux écrits à 10 ans, pas pour rien. Il est vrai que, du point de vue poésie, justement, Aragon et Pierre-Emmanuel, justement comme poètes, leur faisaient la vie dure, ils ne se trompaient pas. Mais bon, j'ai décidé, moi, de publier mes tout premiers poèmes, hein, ceux écrits à 10 ans, pas pour rien. Il est vrai que, du point de vue poésie, justement, Aragon et Pierre-Emmanuel, justement comme poètes, leur faisaient la vie dure, ils ne se trompaient pas. Mais bon, j'ai décidé, moi, de publier mes tout premiers poèmes, hein, ceux écrits à 10 ans, pas pour rien. Il est vrai que, du point de vue poésie, justement, Aragon et Pierre-Emmanuel, justement comme poète, leur faisait la vie dure, ils ne se trompaient pas. Mais bon, j'ai décidé, moi, de publier mes tout premiers poèmes, hein, ceux écrits à 10 ans, pas pour rien. Il est vrai que, du point de vue poésie, justement, Aragon et Pierre-Emmanuel, justement comme poètes, leur faisaient la vie dure, ils ne se trompaient pas. Mais bon, j'ai décidé, moi, de publier mes tout premiers poèmes, hein, ceux écrits à 10 ans, pas pour rien. Il est vrai que, du point de vue poésie, justement, Aragon et Pierre-Emmanuel, justement comme poètes, leur faisaient la vie dure, ils ne se trompaient pas. Mais bon, j'ai décidé, moi, de publier mes tout premiers poèmes, hein, ceux écrits à